Bienvenue sur Radio Mayuri Campus, ravi de vous retrouver. J'accueille Jessie Américain. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
Alors, nous allons évoquer avec vous votre ouvrage intitulé Negmaron, itinéraire d'un enfant du ghetto. C'est votre premier ouvrage ?
Oui, c'est mon premier roman, et à mon avis, ce ne sera pas mon dernier. C'est une sorte d'égo-histoire qui s'inspire de mon parcours personnel, mais avec beaucoup de fiction. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une autobiographie, puisque c'est énormément de fiction. C'est une histoire qui se déroule entre Saint-Laurent-du-Maroni, Paris et la Colombie, où on va à travers le parcours d'un jeune du personnage principal qui s'appelle Antoine. Donc à travers son parcours, on va aborder différentes problématiques, à la fois en Guyane. Par exemple, on va aborder l'interculturalité, les différentes relations entre les différents groupes en Guyane. On va parler éducation, on va parler chômage des jeunes, on va parler trafic de drogue. Et puis aussi, à Paris, on aura une vision assez critique de la société parisienne, et notamment d'une grande école comme Sciences Po Paris. Et puis enfin, on est plongé dans la vie sud-américaine, dans les quartiers populaires de Bogota, de Cali, de Medellín, de Cartagena de Indias en Colombie. On va aussi parler de l'histoire des Afro-Colombiens. Les Afro-Colombiens représentent près de 15 millions d'habitants en Colombie sur 45 millions. Donc c'est une partie assez importante de la population. Et puis aussi, on parle aussi du conflit interne qui touche la Colombie depuis plus de 50 ans. Donc c'est tout ça qu'on va retrouver dans mon livre avec beaucoup de piment, puisque j'aime bien les histoires sympas.
Alors, on va reprendre au début. Saint-Laurent, c'est votre commune de naissance ?
Tout à fait. Je suis originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, mais ma famille vient du Maroni. J'aime bien dire que je suis un pur produit du Maroni, puisque la famille vient de Maripasoula, Papa Ichton et Apatou. Mais on s'est installé à Saint-Laurent depuis les années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt le QG de la famille, puisque ma mère, mes frères, mes oncles, mes tantes et mes cousins habitent tous Saint-Laurent aujourd'hui.
Donc vous avez fait une partie de vos études à Saint-Laurent, puis vous êtes envolé vers l'Europe.
C'est ça, donc j'ai suivi ma scolarité à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'au bac. Et puis après le bac, je suis parti à Paris où j'ai fait un double cursus à Sciences Po Paris. Un premier cursus orienté sur les relations internationales en Amérique du Sud. Donc je connais plutôt bien la Colombie puisque j'ai étudié à l'Université Externa de Colombia, à Bogota.
C'était dans un cadre d'échange entre deux écoles.
Un séjour d'études à Bogota où j'ai travaillé sur l'histoire politique de l'Amérique du Sud, sur les relations internationales en Amérique du Sud, sur la sociologie également en Amérique du Sud. Donc je connais bien le Venezuela, l'Équateur, Panama et aussi Cuba. Et puis après, j'ai fait un master en gestion des ressources humaines à Sciences Po Paris. Et j'ai ensuite travaillé dans des sociétés parisiennes. Avant de revenir en Guyane en 2015.
Alors depuis 2015, vous êtes lancé de nouveaux défis, de nouveaux challenges, vous pouvez peut-être nous en parler ?
Oui, moi je suis un amoureux de la Guyane hein, et de l'Amérique du Sud en général, donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec des chercheurs sur des sujets historiques. On peut citer par exemple Jean Momou, hein,
bien sûr,
qui est plutôt connu en tant qu'historien. On peut citer également Clémence Léobal, avec qui j'ai travaillé ponctuellement sur des sujets. Également avec des anthropologues, Richard et Sally Price, qui sont plutôt spécialisés sur le monde des Saamaka au Suriname. Et j'ai pu également travailler avec Richard et Sally, travailler avec ces deux anthropologues. Et puis, quand on est passionné par la réalité, quand on est passionné par son pays, on est aussi amené à s'engager politiquement. Donc j'ai créé un groupe de réflexion en 2017 avec des jeunes de tout le territoire, de Cayenne, de Saint-Laurent, de Kourou, de Maripasoula, de Papa Ichton. Et puis la partie de ce groupe-là qui venait de Saint-Laurent a décidé de proposer une alternative politique à Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre des élections municipales de mars 2020. Donc j'ai été la tête de liste de ce projet-là. On avait un double objectif qu'on a plutôt atteint. Le premier, c'était de proposer une alternative politique dans une commune à Saint-Laurent-du-Maroni qui évolue très très rapidement. Saint-Laurent 2030, ça sera peut-être la première ville des Outre-mer devant Saint-Denis de la Réunion. c'est plus de 80% de jeunes de moins de 20 ans. Et aujourd'hui, on a des sujets sur comment créer de l'activité, créer des emplois, et puis donner des opportunités professionnelles à toute cette population. Et puis également, c'était l'objectif deuxième, c'était de se faire connaître par un plus grand nombre, puisque moi, personnellement, on me connaissait dans le monde intellectuel, mais pas trop dans le monde politique et par le grand public notamment. Donc c'était l'objectif. On a atteint ces deux objectifs-là, puisque aujourd'hui, je suis élu à Saint-Laurent-du-Maroni.
Depuis 2015, quelles ont été les différentes étapes que vous avez franchies? Qu'est-ce que vous avez réalisé, hormis ce passage en politique?
Depuis 2015, il y a eu la sortie de mon roman, et sortie de Nègre Marron, Itinéraire d'un enfant du ghetto, qui a été bien accueilli à la fois par la critique et par le grand public, puisqu'on a fait les meilleures ventes à l'époque quand on a publié le roman.
Il date de combien d'années maintenant?
2016, ça va bientôt faire 5 ans. Mmh. Et puis aussi, le roman a été sélectionné pour le prix Carbet de la Caraïbe et de tout le monde, qui est en termes de prix un des plus prestigieux sur le monde francophone de la Caraïbe, en fait. Donc on est assez satisfait des résultats qu'on a pu réaliser. Et puis on a aussi fait un tour de la Guyane, hein, pour présenter le roman. Mm-hmm. On a été à Maripasoula, on a été à Mana, on a été à Kourou, Saint-Laurent, Rémiremont-Joly, Cayenne, et puis surtout Bogota, on l'a aussi présenté en Colombie. Donc voilà, premier objectif au niveau littéraire, au niveau intellectuel, puisque il y a pas beaucoup de jeunes auteurs guyanais, il y en a pas beaucoup. Et donc je considère qu'aujourd'hui on doit pouvoir aborder nos réalités de l'intérieur. Je dis pas que d'autres personnes ne peuvent pas aborder avec brio nos réalités à travers des écrits scientifiques ou des écrits des récits, donc des fictions, mais je pense que quand l'histoire vient de l'intérieur, c'est pas la même puissance, c'est pas la même énergie. Et donc moi, je milite pour ces histoires-là. Nous devons raconter nos histoires. Nous devons aussi créer des concepts qui nous ressemblent.
Cet ouvrage, c'était un moyen pour vous de vous faire connaître du grand public, avec peut-être déjà cette idée, cet objectif de vous lancer en politique?
Non, pas du tout. Pour moi, l'art de manière générale, que ce soit la littérature, la musique, la sculpture... le théâtre, pour moi, c'est un moyen de communication, c'est un outil de communication.
J'ai écrit, qu'utilisent aussi souvent des hommes politiques.
Oui, mais en tout cas, moi.
Pour mettre le pied à l'étrier.
En tout cas, moi, j'ai écrit ce roman parce qu'il y avait des choses à dire. Il y avait des histoires, il y a encore des histoires à raconter, puisque nous ne racontons pas nos histoires. C'est en général d'autres personnes qui viennent raconter nos histoires, et je considère que nous devons raconter nos histoires, parce que si on raconte pas nos histoires, c'est l'autre qui raconte l'histoire là à notre place. Par exemple, je trouve que quand on raconte l'histoire du village chinois de Cayenne, ça a plus de puissance quand c'est un habitant du village chinois qui raconte son histoire. Je considère que l'habitant de la Charbonnière doit pouvoir raconter son histoire à Saint-Laurent-du-Maroni. Je considère que l'habitant du village Saramaka de Kourou doit pouvoir raconter son histoire. Donc, c'était un besoin, c'était une nécessité à la fois pour moi et puis pour les jeunes de Guyane, puisqu'on n'a pas beaucoup d'auteurs guyanais qui racontent leurs histoires.
Un ouvrage paru chez Ibis Rouge, qui malheureusement n'existe plus dans le monde des éditeurs guyanais. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui, Jessie Américain? Vos ambitions pour la Guyane, devrais-je dire, peut-être?
Très, très modestement, moi, mon ambition, c'est de faire des choses qui vont impacter positivement la vie des gens. C'est ça, mon ambition. Et dans tout ce que je fais...
À quoi pensez-vous ?
Et dans tout ce que je fais, c'est mon objectif, que ce soit dans le monde intellectuel, avec un roman, un essai, etc., dans le monde politique, dans le monde entrepreneurial ou dans le monde associatif. Tout ce que je fais n'a qu'un seul but, c'est de faire des choses qui vont impacter positivement la vie des gens. Et donc, C'est ça mon ambition. J'ai pas d'ambition politique. Je ne rêve pas de terminer. Par exemple, mon ambition politique, c'est pas de terminer sur un poste en particulier. C'est pas ça qui me guide. Je ne me vois pas en 2022, en 2025, en 2026, en tant que député, en tant que maire, en tant que président de la CTG. Non. Moi, mon ambition, c'est une ambition collective. C'est de faire des choses qui vont impacter positivement la vie des gens. J'ai pas d'ambition personnelle. Mais après, je suis prêt à prendre mes responsabilités.
C'est jamais personnel. Il faut avoir une équipe, il faut avoir une stratégie, il faut avoir des gens autour de soi.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que je suis prêt à prendre mes responsabilités et je participe à des initiatives qui ont cet objectif-là.
Alors, souvent, on reproche aux jeunes de vouloir se lancer en politique sans s'être déjà fait connaître dans le monde économique, dans le monde des affaires, en créant des emplois, en développant économiquement ce territoire qui a tant besoin. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Non, moi, je pense que ça s'adresse pas seulement aux jeunes. La politique, c'est l'affaire de tous. J'étais encore en train d'écouter une chanson d'un rappeur français qui s'appelle Rockin' Squat. Il disait dans un de ses couplets, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de toi. Donc la politique, c'est l'affaire de tous. On n'a pas besoin d'un diplôme. On n'a pas besoin d'être jeune ou d'être moins jeune ou d'être expérimenté ou pas expérimenté. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour son territoire, pour sa population, pour sa terre et qu'est-ce qu'on est prêt à donner en fait à sa terre. C'est ça le sujet. C'est pas une question. Il y a pas de prérequis pour faire de la politique. Il n'y a pas de prérequis pour aider la population. Il n'y a pas de prérequis pour aider nos maires. Il n'y a pas de prérequis pour aider cette terre. Donc moi, je ne suis pas dans les prérequis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des valeurs qui doivent nous animer. C'est de se battre pour cette terre jusqu'au bout. C'est de travailler parce qu'on veut proposer une alternative authentique qui nous ressemble. C'est de travailler parce qu'on a la possibilité de proposer un modèle qui soit un modèle guyanais, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. Moi, j'y crois personnellement.
Comment le définissez-vous, ce modèle guyanais ?
Pour moi, le modèle guyanais, c'est un modèle où on pense et on construit et on fait par nous-mêmes, en fonction de nos propres réalités. Pour moi, c'est ça le modèle guyanais.
Ouais, aujourd'hui, ça reste des mots. Il y a très peu d'actes.
C'est pour ça, moi, j'ai pas peur de dire que.
Est-ce que vous allez changer le paradigme ? Comment allez-vous changer les choses ?
J'ai pas peur de dire que j'ai commencé la politique au mois de mars 2020 et que à un moment donné, il faut faire un bilan à la population pour dire à la population ce qu'on a fait. On a des hommes politiques en Guyane qui font de la politique depuis les années 80, c'est-à-dire plus de 40 ans.
Vous pensez à
qui ? On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai commencé la politique en mars 2020. J'ai l'intention.
Vous pensez à qui quand vous dites ça ?
Non, je ne parle pas. Je parle pas d'une personne en particulier parce qu'ils sont. Il y en a quelques-uns quand même. Ils sont nombreux.
Citez-nous.
Non, on va pas en citer. On les connaît. On sait qui est sur la scène politique depuis des décennies en Guyane. On les connaît. En tout cas, moi, j'ai l'intention de présenter un bilan pour démontrer que ce que je raconte fonctionne, en fait. Parce que c'est bien beau de dire de faire des jolis discours. On entend des jolis discours presque tous les jours. Maintenant, il faut démontrer que le discours fonctionne. Et moi, je suis dans la démonstration je vais démontrer que mon discours fonctionne.
Mais ça, on l'a déjà entendu maintes et maintes fois. Là, on est écouté, par exemple, à la Charbonnière sur 89.2. Qu'est-ce que vous pouvez changer concrètement demain dans la vie des Saint-Laurentais qui vivent difficilement dans ces quartiers, confrontés au chômage, à l'insécurité, à manque de perspective, au-delà des mots?
Comme je l'ai dit, pour moi, la politique, c'est pas un projet personnel. C'est une ambition collective. Donc DC américain ne va pas changer la vie des habitants de la Charbonnière, la vie des habitants de Balata, la vie des habitants de Cogno.
Vous pourriez porter un projet.
DC américain va participer à un projet qui va proposer une alternative crédible, authentique à ces personnes-là au niveau politique, au niveau culturel, au niveau économique. Ça, c'est ce que je vais faire. Je vais participer à un projet collectif qui va proposer une alternative crédible. Parce que moi, je considère, par exemple, au niveau...
Est-ce que vous risquez pas de reproduire ce schéma dont beaucoup de gens n'en veulent plus en utilisant des mots, des phrases, mais souvent auxquelles on n'associe pas assez de profondeur et qui manque. On perd un petit peu la réalité du terrain, on vous perd un peu. Parce que c'est pareil dans les perspectives, parler d'alternatives, mais quoi comme alternative ?
Non, je pense que chaque chose doit être présentée en temps et en heure. Aujourd'hui, on a lancé des ateliers populaires avec un groupe. Nous avons lancé des ateliers populaires sur l'ensemble du territoire. À travers le concept changer d'air.
Voilà, on est changer d'air.
Changer d'air, c'est un concept qui s'inspire d'un poème de Léon Gontran Damas, grand comme un besoin de changer d'air. Et c'est aussi la nécessité de dire qu'à un moment donné, il faut changer d'époque, il faut changer de génération, il faut proposer autre chose. Les ateliers populaires, ce sont des rencontres d'1h30 qu'on a organisées sur l'ensemble du territoire, où on a posé un certain nombre de questions à la population sur 5 thématiques. Mmh. La première thématique, c'est l'identité. Parce qu'on est sur un territoire qu'on ne connaît pas, et nous-mêmes, entre Guyanais, on ne se connaît pas. On peut pas développer un territoire qu'on ne connaît pas.
Quelle est l'identité guyanaise aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est créole ? Est-ce qu'elle est amérindienne ?
Je termine rapidement, après je réponds à votre question. La deuxième thématique qu'on a abordée avec la population, puisque l'idée c'était de recueillir de la matière, c'est qu'est-ce qu'on fait pour développer ce pays au niveau économique ? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir autonome au niveau alimentaire, par exemple ? La troisième thématique qu'on a abordée, c'est le bonheur, puisqu'on considère que l'objectif de chaque individu, c'est d'être libre et d'avoir les clés pour être heureux. Autre sujet qu'on a abordé, c'est quel modèle, c'est quelle est la place de la Guyane dans le monde, puisqu'on considère que la Guyane a des choses exceptionnelles à donner au monde. Et puis enfin, quelles sont les transformations qu'on va devoir mettre en place pour atteindre un objectif politique qui doit être partagé par le plus grand nombre.
Qu'est-ce qu'il en est sorti ?
Et ce qu'il en est sorti, puisque l'idée c'était de faire un diagnostic de l'état actuel de la Guyane au niveau politique, économique et social et culturel, on est dans un pays où il y a beaucoup de désespoir. On a rencontré des jeunes à Saint-Georges qui ont 18-19 ans, qui nous ont dit qu'ils ont déjà lâché l'affaire, qu'ils n'ont plus envie de se battre pour eux. Parce qu'ils n'y croient plus. Et en même temps, on a rencontré des moins jeunes, des femmes, sur d'autres parties du territoire, qui se battent quotidiennement et qui proposent des alternatives pour développer leur quartier et pour développer leur communauté. Par exemple, il y a des femmes qui, de manière peut-être non déclarées, vont créer des systèmes de commercialisation de produits, par exemple de couac, sur une partie du territoire. C'est des initiatives qui sont positives. Donc, il y a une partie du territoire où il y a, en tout cas, il y a une bonne partie de notre population qui est en situation de désespoir, et puis des personnes qui se battent quotidiennement pour nourrir leur famille, pour donner une destinée à leurs enfants, et puis il y a de l'énergie sur notre territoire. Si on revient sur la question de l'identité, ce que les gens nous disent, c'est que le plus important...
Est-ce qu'elle est bushinengue, l'identité guyanaise aujourd'hui ?
Est-ce
qu'elle est boni ? Est-ce qu'elle est bushinengue ? Est-ce qu'elle est créole ? Est-ce qu'elle est amérindienne ? Oui.
Ce que nous disent les gens qu'on a rencontrés, c'est que le sujet, c'est pas... Le plus important, c'est pas d'où l'on vient, mais où nous allons ensemble, en fait. Donc, qu'on soit d'origine amérindienne, d'origine bushinengue, d'origine créole, d'origine brésilienne, d'origine haïtienne, d'origine dominicaine, d'origine, je peux citer toutes les surinamiennes, le sujet, c'est pas ça.
Vous voulez dire par là
le plus important, le plus important.
L'identité est multiple aujourd'hui.
C'est ça. Mais aujourd'hui, la diversité de l'identité guyanaise, c'est ça notre plus grande richesse sur ce territoire. La caractéristique de l'identité guyanaise, c'est sa diversité. Il n'y a pas d'autre caractéristique. On est guyanais parce que on vient de partout. Mais ce qui nous définit en tant que guyanais, c'est l'amour qu'on a pour cette terre. Et parce qu'on est prêt à se battre pour cette terre. Donc ce n'est pas une question d'origine. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour cette terre. Parce que nous aimons tous cette terre.
Ce n'est pas toujours ce que l'on entend. Ce n'est pas le discours, on va dire, qui occupe le plus l'opinion en général.
Non, moi, ce que disent les autres, bon, en tout cas, je ne sais pas qui, mais moi, c'est ce qu'on a entendu sur l'ensemble du territoire et je partage cette vision. Et c'est cette vision qui m'intéresse parce que c'est cette vision qui va nous permettre de construire ce pays. Parce que l'objectif, c'est de construire un projet commun, partagé par le plus grand nombre, où toutes les identités ont la même légitimité. Et donc, moi, c'est cette vision qui m'intéresse, parce que c'est celle-là qui va nous permettre de construire.
Vous estimez aujourd'hui que toutes les identités sont considérées de la même façon? Vous n'avez pas parfois l'impression qu'il y a une hiérarchisation au sein de cette société guyanaise?
Il faut connaître l'histoire de la Guyane. L'histoire de la Guyane, une partie de l'histoire de la Guyane, c'est qu'au sortir de l'abolition de l'esclavage en 1848, la population qu'on appelle aujourd'hui la population créole s'est inscrite dans ce qu'on appelle l'assimilation, la politique de l'assimilation. Et dans le cadre de la politique de l'assimilation, le Guyanais voulait être considéré comme un Français, un citoyen français à part entière. Et c'est une vision qui a existé en Guyane jusqu'au début des années 1920, notamment parce qu'il y a eu des personnalités qui ont commencé à avoir une pensée contre-assimilationniste. Je pense par exemple à Léon Gontran Damas. Cette vision a globalement existé dans le pays jusque dans les années 70 parce que des mouvements anticolonialistes et indépendantistes ont proposé une alternative. Et ces mouvements, dans leur discours, vont intégrer les populations amérindiennes et bushinengues à l'identité guyanaise. Parce qu'avant, dans le cadre de la colonisation, on avait hiérarchisé les races. Exactement. Après le blanc, c'était le créole, ensuite les primitifs, donc les bushinengues et les amérindiens. Avec les mouvements anticolonialistes, on va intégrer les bushinengues et les amérindiens, qui étaient considérés comme primitifs, à la population guyanaise. Aujourd'hui, heureusement, les rapports sont en train d'évoluer entre les différents groupes qui habitent ce territoire. Et les rapports sont en train d'évoluer positivement. Après, il y a encore des préjugés qui existent. Et les préjugés vont dans tous les sens. Le bushinengue, il a des préjugés sur le créole a des préjugés sur les amérindiens, les amérindiens ont des préjugés sur les bushinengues. Ça va dans tous les sens, ça va pas que dans un seul sens. Mais aujourd'hui, je pense que ça évolue plutôt positivement.
Puisqu'on
se connaît de plus en plus, mais il y a encore des personnes qui sont encore dans des préjugés qui sont hérités de notre histoire. Malheureusement.
C'est pas la majorité. Vous avez le sentiment que nous tendons vers une certaine égalité en Guyane, entre les différentes
identités. En tout cas, les rapports sont en train d'évoluer et je considère que les rapports évoluent plutôt positivement. Après, comme je l'ai déjà dit, il y a encore des personnes qui sont encore dans du passéisme, mais aujourd'hui, je considère que ça évolue positivement. Après, il faut mettre en place des vraies politiques publiques pour faciliter tout cela. C'est pour ça que dès le départ, nous, on a parlé d'identité. On habite un pays qu'on ne connaît pas et entre Guyanais, on ne se connaît pas assez.
Alors, vous, à travers ce livre, vous parlez de votre parcours, de votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire que pendant votre adolescence, toutes ces années que vous avez passées sur les bancs des différentes écoles, que ce soit à l'ouest, à Saint-Laurent-du-Mahony, où c'est l'endroit où vous avez principalement étudié, vous n'avez jamais été discriminé par rapport à vos origines?
Discriminé, non, pas. Après, moi, j'ai grandi dans une partie du territoire où la population majoritaire est bushinengue, à Saint-Laurent-du-Mahony, et dans l'Ouest de manière générale. Nous sommes la culture bushinengue est la culture dominante dans l'Ouest. Donc j'ai pas eu à ressentir de discrimination. Après, je pense que ça existe. ça existe, mais personnellement, j'en ai pas ressenti. Parce que là où j'habitais, nous étions majoritaires. Quand je dis nous, ce sont le groupe socioculturel Bushinengue était majoritaire, donc la culture Bushinengue
était dominante. C'est peut-être pour cette raison vous avez titré votre livre L'enfant du ghetto, puisque vous parlez de ghetto dans cet ouvrage.
Oui, il y a deux titres.
L'itinéraire
d'un nègre marron et l'itinéraire d'un enfant du ghetto. Donc il y a deux regards. Il y a le regard communautaire, identitaire, donc. Le nègre marron, c'est le Bushinengue. J'aurais pu intituler aussi Bushinengue, mais j'ai voulu volontairement laisser le terme Bushinengue aux scientifiques, parce que je trouvais que nègre marron était plus adapté à la littérature, en tout cas lorsque j'ai écrit ce roman.
Qu'on peut considérer comme une insulte, le mot nègre marron. Tout dépend qui le dit.
Pourquoi on devrait considérer nègre marron comme une insulte?
On le voit parfois à la télévision quand on s'en prend à des Européens parce qu'ils osent appeler quelqu'un de couleur le nègre. On l'entend, cela.
Non, il y a nègre et nègre marron, c'est pas la même chose.
D'accord.
Okay. Nègre et nègre marron, c'est pas la même chose.
Nègre tout court, c'est une insulte.
Le nègre marron,
ça l'est pas.
Le nègre marron, c'est l'esclave qui s'est révolté contre le système colonial et qui a créé des sociétés libres et autonomes dans le cadre de l'esclavage.
Okay.
Donc ça, pour nous, c'est pas une insulte.
C'est clair. Ok. D'accord.
C'est pas une insulte. Et puis donc je disais qu'il y a un premier regard identitaire à travers le titre nègre marron et puis un deuxième regard social, itinéraire d'un enfant du ghetto, puisqu'il y a des ghettos dans toutes les grandes villes de Guyane, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, principalement. Et donc, ça s'adresse à tout le monde.
À tout le monde. Demain, vous allez présenter votre ouvrage au bout de plusieurs années à l'université.
Peut-être
que... Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour le faire, d'ailleurs?
Non, on a toujours voulu présenter le roman à l'université de Guyane, puisque c'est la principale institution libre de ce pays.
Les portes vous étaient fermées jusque-là?
Non, je pense qu'on n'a pas. C'est une question d'opportunité. Aujourd'hui, l'opportunité se présente. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Et il n'est jamais trop tard pour faire des belles choses.
D'accord, ok. Vous voyez les choses avec un œil positif.
Non, moi je me considère comme un idéalo pragmatique. Okay. C'est-à-dire que je suis très pragmatique, je pars toujours de la réalité, mais je pense qu'avec nos réalités, on peut faire de très belles choses, on peut aller très très loin.
Mmh. Est-ce que les auditeurs, les internautes peuvent venir assister à cette...
Oui, c'est une conférence donc, qui va se dérouler au sein de l'amphithéâtre A, qui sera ouvert au grand public. Donc tout le monde peut participer, donc c'est de 16h à 18h à l'université de Guyane à Cayenne.
Très bien, ce mardi 23 mars.
Mercredi 24 mars.
Mercredi 24 mars.
Mercredi 24 mars.
Très bien, c'est bien de le préciser. Quels sont vos projets en termes d'écriture, GC Américain?
Il y a plein de projets. On travaille sur
publication.
On travaille sur un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qu'on va finaliser bientôt. Et puis, il y a la deuxième partie de Nègre Marron, itinéraire d'un enfant du ghetto. Qui doit aussi sortir. Donc, il y a plein de projets littéraires en cours. Mais il y a aussi d'autres projets. Il y a d'autres projets, des projets politiques, au niveau entrepreneurial aussi, au niveau associatif. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire.
Je sais que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Comment peut-on vous suivre? Suivre votre actualité?
On peut suivre mon actualité sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Donc, c'est toujours DC Américain. Sur ma page Instagram. Également sur la page Changer d'air en Guyane. Donc, le concept d'atelier populaire que nous avons mis en place. Au niveau politique, j'ai un groupe politique à Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent, un souffle nouveau. Donc, il y a également mes actualités sur ces pages-là. Mais globalement, c'est DC Américain sur Facebook, sur Instagram.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle qu'on vous retrouve le mercredi 24 mars à l'amphithéâtre A, à l'Université de Guyane. Ce sera à partir de quelle heure?
De 16h à 18h.
Voilà,
mercredi 24.
À 18h. Soyez présents, soyez.
Merci à vous pour l'invitation. Merci
nombreuses.
À nos internautes.
Bonne continuation et à bientôt.
Au revoir. À très bientôt. Au revoir.